Réplique, le peuple et les élites, avec Patrick Buisson et Alain Minc. Tout oppose Alain Minc, l'auteur, entre autres, de La mondialisation heureuse, et Patrick Buisson, qui vient de publier La cause du peuple. Et pourtant, entre 2007 et 2012, ils ont été les conseillers du même prince, Nicolas Sarkozy. Ils ne le voyaient pas aux mêmes heures, ils ne lui tenaient pas le même discours, ils ne lui faisaient pas les mêmes suggestions. Et pourtant, le fait est là, et ce fait constitue un paradoxe qui demande d'être élucidé. Aussi demanderai-je, sans tarder, à mes deux invités, quel bilan ils tirent de leur expérience. Que représente pour vous, messieurs, le moment Sarkozy ? Patrick Buisson.
Bien d'abord, une grande espérance, celle de 2007. Pour la première fois, un candidat appartenant à un parti de gouvernement porte un discours politique différent, en se réappropriant des concepts comme celui d'insécurité culturelle ou celui d'identité. Je vous rappelle que 2007, c'est la seule élection présidentielle où le Front National est reculé, sensiblement. Le Pen perd 7 points par rapport à son score de 2002. Cette grande espérance, elle comportait des obligations. La première était de réinstituer le peuple français comme sujet politique, comme sujet historique, comme acteur de son destin, notamment par le biais de ce qu'on peut appeler une démocratie référendaire. Nicolas Sarkozy s'était engagé à faire appliquer le référendum d'initiative populaire sur le mode suisse, dans son programme de 2007. Démocratie référendaire que j'opposais à la démocratie censitaire ou diversitaire, dont on aura à parler par la suite. Cette espérance a été d'emblée déçue. Dans la mesure où Nicolas Sarkozy n'a pas compris que, dans le cadre du quinquennat, réformer ce pays sans le socle de légitimité qu'apporte le référendum est impossible, notamment sur les grands dossiers de fond. Son projet, d'ailleurs, n'était plus de réformer. Son projet a été, contrairement à son propos de campagne, de durer. Cette déception, elle s'est traduite par ce qu'on sait, c'est-à-dire le projet politique n'a pas été mené à bien, le projet social non plus. Le projet social, c'était rebattre les cartes de la redistribution. Identifier les intérêts contradictoires dans ce pays, dans une période où la dette publique est importante, où l'argent public devient rare, de manière à procéder aux arbitrages transparents et équitables. Il ne l'a pas fait non plus. Cette déception était logiquement, malheureusement, je dis malheureusement, parce que la politique, ce n'est pas le domaine de la morale. On n'a pas à choisir entre le mal et le bien, mais entre des mots, voilà, entre la perspective de voir François Hollande réélu, avec les conséquences que l'on sait, et la réélection de Nicolas Sarkozy, qui aurait comporté de nombreux risques. Les Français ont choisi de rejeter Nicolas Sarkozy. Au total, donc, alors sur un plan personnel, une expérience formidable, car la confrontation d'une réflexion purement théorique à l'exercice du pouvoir et donc les limites que ça comporte. Une leçon d'humilité terrible. Le conseiller pêche toujours par orgueil. Il pense qu'il pourra infléchir le cours des événements. En réalité, il n'y parvient jamais. Et il s'obstine finalement dans son erreur.
Vous dites, Patrick Buisson, que la promesse n'a pas été tenue. La déception est venue très vite. Et pourtant, comme vous le rappellent les journalistes qui vous interviewaient récemment dans Valeurs Actuelles, vous expliquiez encore en 2013 que Nicolas Sarkozy allait s'imposer comme l'unique recours de la droite. Et vous avez participé activement aussi à la campagne de 2012. Autrement dit, votre déception, on se demande si elle ne tient pas aussi au fait du scandale qui a éclaté lorsque Nicolas Sarkozy a découvert que vous l'enregistriez à son insu et qu'il a pensé que cela était d'une rare violence. Patrick Buisson.
Il n'a rien découvert du tout. Je crois qu'il faut rétablir les faits. Il a choisi de valider l'interprétation des médias à partir d'un événement, le vol d'un fichier, qui n'a jamais été éclairci. On ne sait pas qui l'a volé, pourquoi. J'ai quelques idées à ce propos. Et cela a été pour Nicolas Sarkozy, effectivement, le prétexte d'une séparation qui était consommées au cours de l'année 2014 pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Je peux y revenir, mais elles sont purement factuelles. Elles tiennent au contexte politique. Nicolas Sarkozy se persuade très vite que Marine Le Pen sera l'adversaire qu'il aura affronté au second tour. On n'est plus dans ce schéma droite-gauche où la ligne Buisson-SIC a une quelconque utilité électorale. Elle perd même tout intérêt. Et Nicolas Sarkozy change de stratégie. Comme il change d'idée ou de conviction, il est toujours à la recherche du logiciel électoralement le plus performant.
Alain Minc.
Évidemment, nous sommes en désaccord sur tout. Et c'est, je pense, l'honneur de Nicolas Sarkozy, quand il était à l'Élysée, d'écouter des voix aussi divergentes. Et je le dis d'autant plus volontiers que, comme chacun le sait, depuis janvier 2015, je soutiens de toutes mes forces Alain Juppé.
Oui, nous y arriverons.
Alors, Patrick Buisson était conseiller, je n'étais que visiteur du soir. Donc, dans l'espèce de cuisine que faisait entre nos idées Sarkozy, je crains que Patrick Buisson ait eu un peu plus de place que moi. Mais pas toujours. Et en effet, moi, mon job, si je puis dire, mon job purement amical, j'étais là que comme ami, sans aucun lien institutionnel, c'était de lui dire toujours l'inverse de ce que lui disait Buisson, par conviction. Je n'ai pas du tout eu la même lecture de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Je l'ai eu tellement peu que j'ai été un des agents de cette ouverture que déteste Patrick Buisson. Je ne dis pas que les recettes Buisson n'aient pas été électoralement efficaces. Je peux raconter une anecdote, si vous voulez. Le jour où Nicolas Sarkozy annonce le ministère de l'Identité nationale, il m'appelle, je me souviens que j'étais à Lisbonne, et il me dit « tu dois pas aimer ». Alors je lui dis « c'est un pari faustien ». Et le matin de l'élection, il m'appelle et il me dit « à quel pourcentage penses-tu que le pari faustien est gagné ?» Je lui dis « si tu as deux fois plus de voix que Le Pen ». Et à 9h, il triomphe, il me dit « tu vois, c'est trois fois plus de voix ». Bon. Mais nous avons de la relation au prince une vision tout à fait différente. Au fond, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Patrick Buisson parce que c'est une filiation intellectuelle dont je n'avais pas lu de livre depuis Jacques Bainville. Ce qui n'est pas une mauvaise référence, car j'ai beaucoup d'admiration intellectuelle pour Jacques Bainville. Mais au fond, Patrick Buisson espérait que Sarkozy serait son bras séculier idéologique. Moi, j'avais une vision tout à fait différente. Je trouve normal qu'un prince fasse sa propre cuisine en fonction d'ingrédients différents. Et je ne me suis jamais formalisé que je n'ai pas pu entraîner encore plus vers la pensée unique, Nicolas Sarkozy. Je trouvais très normal qu'il fasse son alchimie propre. Et donc, je garde de cette période un souvenir différent. Je pense d'abord qu'il faudra rendre hommage, surtout si Nicolas Sarkozy subit une espèce d'effacement politique s'il est battu à la primaire, de l'exceptionnelle présidence qu'il a menée de l'Union européenne. Alors évidemment, sans doute divergence à nouveau, car j'y ai vécu à ce moment-là ce qui pour moi était essentiel, qui était sa vraie conversion européenne. Je pense qu'il aurait, s'il n'y avait pas eu cette crise, fait un degré de réforme raisonnable, pas les mêmes. Je pense que, Dieu merci, il n'aurait fait aucun référendum, la pire des choses qui puisse arriver, les référendums. De toute façon, depuis la Colombie, on sait que quand un peuple vote même contre la paix, il vaudrait mieux ne plus faire de référendum. En revanche, je reconnais volontiers que, à la fin 2011, Nicolas Sarkozy inaugure par ses voeux la campagne présidentielle que j'aime. Faire venir Angela Merkel, ce que j'adore, Schröder. Faire du franco-allemand. Je lui ai amené Schröder à l'Élysée, c'était formidable. Voilà. Bon. Et malheureusement, quand il fait cette campagne-là, il ne gagne pas un point. Donc il abandonne la ligne pensée unique, je dirais pas ma ligne, parce qu'il y en avait d'autres qui l'a plaidé, pour la ligne Buisson, et il fait des points. Ça, d'accord. Je crois
oui,
que
c'est d'ailleurs Buisson.
Je crois qu'il y a un levier je le reconnais bien volontiers. Bon.
Mais alors, quelle conclusion en tirez-vous, Alain Minc ?
Mais je pense que, à certains moments, la ligne Buisson permet peut-être de gagner les élections, mais elle est absolument inadéquate pour gouverner un pays.
Alors, Patrick Buisson. Moi, je voudrais rebondir sur un point du propos d'Alain Minc. Ce que j'aime chez Alain Minc, c'est sa rude franchise. Il appelle un chat. Et notamment que notre démocratie, la démocratie des mollâtres, ceux qui sont toujours dans l'incantation et qui en fait ne la pratiquent pas. Hein. C'est la célèbre phrase de Napoléon à Fouché, supprimez les journaux. Oui, mais faites dans le préambule 6 pages pour réaffirmer les principes. Eh bien, c'est ça, la post-démocratie, dont Alain Minc est aujourd'hui une des grandes figures, un des champions, un des défenseurs. Il nous explique tranquillement que le problème, ce n'est pas d'accomplir la volonté générale, c'est-à-dire la souveraineté populaire, mais d'en limiter l'expression. Mais d'ailleurs, ça a été une constante dans l'histoire de la République. La République s'est fondée sur les procédures d'exclusion. La fameuse fracture entre l'élite et le peuple, elle existe au XIXe siècle. Et comment ? Tout le monde a lu le livre de Louis Chevalier, « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Le suffrage censitaire est au cœur de la constitution de l'an 3, celle de 1795, celle qui fonde le directoire. On commence par exclure les classes dangereuses. Et on exclut aussi les femmes. Au moment d'ailleurs où toutes les monarchies d'Europe donnent le droit de vote aux femmes, il n'y a que notre Troisième République, notre bonne Troisième République, qui assoit ses principes sur les lois constitutionnelles de 1871 et 1875, avec la révision de 1884 qui est intéressante, parce qu'elle sacralise la forme. On n'a pas le droit d'abandonner la forme républicaine des institutions. Voilà, la forme prime sur le fond. On a mis en place, donc, ça remonte au discours de l'abbé Sieyès, aux états généraux, pas de mandat impératif, on se moque des cahiers de doléances, un système qui est un système d'exclusion. Et aujourd'hui, la différence, c'est que le suffrage censitaire pour les élections intermédiaires s'exerce de facto, naturellement, sans que la loi ait besoin de l'imposer. De ce point de vue, à la main, les idées qu'il représente ont parfaitement
Pourquoi
triomphé.
Pourquoi vous dites que le suffrage censitaire s'exerce ?
Eh bien, il s'exerce de manière très simple, cher Alain Finkielkraut. Dans les élections intermédiaires, la participation est de l'ordre de 55%, aux européennes 40%. Ne vote à ce moment-là que les inclus, les catégories supérieures, les classes dominantes, on va appeler ça comme ça. Parce qu'ils ont un rapport de proximité avec la politique. L'électorat populaire, on va dire le peuple démos, pour le distinguer du peuple ethnos. Le peuple démos ne va pas voter, parce qu'il sait qu'il ne sera pas représenté. C'est une forme de protestation. Ou alors il vote pour les formations populistes. Le Front National, parfois. Certaines formations d'extrême-gauche, je pense à la lutte ouvrière, dont la sociologie du vote est très proche de celle du Front National. Eh bien, ces gens-là savent qu'ils ne seront pas représentés, ils vont quand même voter, mais globalement, ce qu'on est convenu d'appeler la France périphérique ne participe pas aux élections intermédiaires. On regarde la sociologie du vote de ces élections intermédiaires, qui y vote ? On voit que c'est plutôt les hauts revenus. On voit surtout que c'est notre génération, la génération de 68, celle qui a transformé son écosystème en égosystème, qui vote. Les plus de 60 ans représentent 22% de la population. Le jour du vote, élection régionale, départementale, législative, c'est 40% des suffrages exprimés. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur la représentation, ils sont surreprésentés à tous les niveaux et ils verrouillent le système. C'est un des verrous, il y en a d'autres.
Non, mais notre désaccord est évidemment complet, puisque ce que Patrick Buisson appelle la démocratie censitaire, c'est tout simplement ce que, en termes de philosophie politique, on appelle classiquement la démocratie représentative. Je voudrais revenir sur un point qui est, au fond, dans le titre même de l'émission à laquelle vous nous avez convié.
Juste un mot. Est-ce que vous n'avez pas conscience que le mot représentatif n'est pas tout à fait adéquat ? C'est une démocratie substitutive.
Je suis sur la vieille ligne churchillienne, le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Le peuple, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être parce que je suis d'une certaine filiation intellectuelle marxiste, comme Patrick Buisson l'est peut-être d'une filiation plus maurassienne. Je sais ce qu'étaient des classes sociales. Je pense qu'il existe toujours des formes de classes sociales, même si les luttes de classe n'existent plus vraiment. Mais le peuple, je ne sais pas comment on peut parler du peuple. On serait dans des élections 90-10. Ok, le peuple d'un côté et les élites de l'autre. Des scrutins à 53-47 avec 80% de votants, on ne peut pas dire que c'est le peuple contre les élites. Ou alors si les élites représentent 47%, ou au référendum de 2005 qui vous a valu votre gloire et votre poids sur Nicolas Sarkozy, si les élites représentent 45% d'un pays, mais c'est formidable, c'est le parangon absolu de la démocratie. C'est-à-dire, c'est la démocratisation des élites. Alors, attendez, je ne suis pas dupe des phénomènes de domination intellectuelle, je ne suis pas dupe des phénomènes de domination sociale. Je pense que ce que vous dites des élections intermédiaires est absolument incontestable. Mais enfin, ce n'est pas élection intermédiaire que se fait réellement la politique. Donc, je pense que c'était plus compliqué qu'elle ait traversé de courants divers. Bien sûr qu'il y a de nouvelles formes d'exclusion, mais bien sûr que l'inclusion ne fait pas que tous les gens qui ont voté voté oui au projet de constitution européenne sont aussi inclus que nous pouvons l'être tous les trois. Mais je considère que je ne sais pas où est le peuple. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un concept attrape-tout, extrêmement rassurant et un formidable levier, un peu hypocrite, mais très puissant.
Alors justement, c'est pour vous l'occasion, Patrick Buisson, de définir le peuple, parce que un des chapitres de votre livre s'intitule précisément « L'élection se gagne au peuple ». On verra si c'est ce qui s'annonce pour 2017, mais qu'est-ce que ça veut dire, Patrick Buisson ?
On peut distinguer le peuple en tant que composante ou catégorie sociale. J'aime bien les références d'Alain Mincon marxiste. J'espère qu'il croit toujours que la bourgeoisie est la classe révolutionnaire. En ce cas, il en fait partie, il est un élément d'avant-garde.
Mais absolument, c'est bien possible. J'ai absolument besoin de penser ça.
Il y a le peuple démos, le peuple qui cherche une expression politique. Il y a le peuple ethnos aussi, c'est-à-dire le peuple qui est attaché à son identité. Je crois que la grande erreur aujourd'hui d'analyse a été de se focaliser sur le peuple ethnos. C'est-à-dire voir le chiffon rouge qu'agitait le Front National. Les problèmes d'identité sont centraux, surtout en période de déstabilisation intense qui est celle de la mondialisation. Mais on n'a pas voulu voir l'autre dimension du populisme qui est aussi importante et qui s'affirme dans tous les pays, en tout cas les pays développés, c'est-à-dire la revendication démocratique. Taguieff dit que le populisme est un hyper-démocratisme. Oui, c'est une demande de démocratie. C'est une demande de démocratie face à un système que Alain Marx s'obstine à appeler démocratie représentative et qui n'est en rien une démocratie représentative. Elle ne représente plus rien. C'est bien le problème. Écoutez, quand on regarde les chiffres, ils sont terriblement parlants. Avant-guerre, un ancien président du Conseil, qui était un modéré, mais qui avait fait métier de réfléchir. Il y en a, hein, et Dieu merci. André Tardieu a écrit un livre
qui s'appelle... Vous voulez dire qu'il y a des modérés qui réfléchissent ?
Oui. Tardieu avait un livre qui s'appelait « Le souverain captif ». Le souverain captif, la révolution à refaire. Il s'élevait contre le fait que déjà l'Assemblée représentait qu'une minorité. Aujourd'hui, il faut savoir que notre Assemblée élue en 2012, la majorité parlementaire, qui est un concept politique, qui n'est pas une réalité arithmétique, représente 16% des inscrits. Et encore, je ne compte pas les 3,5 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Tardieu appelait ça le despotisme d'une minorité légale. Votre démocratie représentative, c'est cela.
Oui, mais Patrick Buisson, il y a un lien quand même entre précisément le peuple démos et le peuple ethnos, parce que ce peuple qui souhaite être mieux représenté et mieux entendu, il demande avant tout que soit pris en compte ce que vous appeliez vous-même son insécurité culturelle, sa préoccupation identitaire. Et vous citez à deux reprises dans votre livre une réflexion de Marcel Gauchet que je voudrais soumettre également à Alain Minc, parce que elle est très intéressante et elle peut éventuellement répondre à votre question, Alain Minc, qu'est-ce que le peuple ? Il dit que l'immigration a changé de nature, Gauchet, dans un de ses articles du débat, elle est devenue un transfert définitif de population. Résultat, la France s'est transformée en pays multiculturel. Et voici la phrase qui devrait nous interpeller. Qui a décidé de ce changement ? Ce sont les besoins de l'économie qui avaient précipité l'importation de main-d'œuvre dans les années 60, nécessité pratique, administration gérée. Mais cette transformation est ressentie désormais comme une transformation fondamentale de la société française. Et elle présente cette particularité intéressante d'avoir totalement échappé de bout en bout au débat et à les décisions démocratique, soit au titre de l'impuissance de l'État devant une réalité plus forte que lui en un temps où son impotence se fait par ailleurs cruellement sentir, soit au titre du choix imposé au pays par l'oligarchie économico-politique en un temps où elle se met brusquement à apparaître comme un milieu solidaire. Et c'est de cette blessure au sentiment populaire de souveraineté, ajoute Gauchet, que va surgir et grandir le vote en faveur du Front National. Le peuple existe, ou en tout cas, il prend conscience de lui-même face à cette mutation immense qui lui est imposée alors que, précisément, elle n'a fait l'objet d'aucune décision ni délibération démocratique.
Est-ce que je peux réagir là-dessus ? Parce que je trouve que, à la fois, ce propos de Gauchet, celui de Patrick Buisson et celui de, implicitement dans votre question, Alain Finkielkraut, revient à la vieille définition de l'époque communiste, qui est qu'au fond, la classe ouvrière, c'est le peuple. Et on a vécu avec ça un bout de temps. Je crois d'abord qu'il n'y a plus de classe ouvrière, peu, vu la désindustrialisation du pays. Et sauf à utiliser des critères dans la chaîne de production, je voudrais qu'on m'explique en quoi un instituteur, en quoi un cadre d'une mutuelle à Niort, un employé chez Accor, un ouvrier qualifié, car il y en a encore quelques-uns. Enfin, il faut bien voir que l'industrie ne représente que 10% du PIB aujourd'hui, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire moins qu'en Espagne, hein, et nettement moins qu'en Italie, je ne parle pas de l'Allemagne. En quoi ils n'appartiennent pas au peuple ? En quoi les masses de petits fonctionnaires qui étaient le lit électoral classique de la gauche, il n'y a que François Hollande pour arriver à les perdre en route. C'est quand même une performance.
Oui,
mais ça, c'est la grande performance de François Hollande.
On
ne peut pas juger l'histoire à l'aune des performances de François Hollande.
Non, elle était amorcée sous François Mitterrand.
Je voudrais qu'on m'explique en quoi ils ne sont pas le peuple.
Mais peut-être le sont-ils, si vous voulez. Il y a eu toute une série d'agressions. Il y a quelques semaines, contre les professeurs de lycée, du lycée de Tremblay, lycée de Colomiers, en Haute-Garonne, un lycée professionnel de Bordeaux, et une agression à Argenteuil, où s'est rendu d'ailleurs Alain Juppé pour demander une république du respect, contre un instituteur qui ramenait ses élèves d'un cours de sport, et qui réprimandait l'une d'entre elles. Et une voiture s'est arrêtée, deux hommes en sont sortis, ont demandé des comptes à l'instituteur, l'ont traité de raciste, l'ont jeté à terre et l'ont roué de coups. Eh bien, cette insécurité, culturelle dont je parle, elle ne concerne pas exclusivement la classe ouvrière et elle donne simplement une dimension identitaire, presque par surprise, à un peuple qui croyait être sorti de cette
façon.
Je pense
franchement, mais là, notre désaccord est.
De se voir lui-même.
Non, mais là, je vais laisser la parole à Patrick Buisson, mais là, notre désaccord est absolument abyssal, mais ça n'est pas, cher Alain, la première fois. C'est-à-dire, je pense que vous transformez des faits de société réels, extrêmement dommageables, en une fantasmagorie sociologique. Et là-dessus, nous ne pourrons pas trouver de point d'équilibre. Je ne vois pas en quoi une odieuse agression comme celle qui a concerné les deux policiers qui relèvent de la criminalité pure et simple fait que le peuple dans son entier éprouve un mal-être qui va se manifester à travers une subversion politique du système.
Bien, je crois qu'Alain Finkielkraut met le doigt sur le problème central avec cette citation de Marcel Gauchet. La question de l'immigration a été décidée, c'est vrai, à échapper au contrôle démocratique. Elle continue d'y échapper. Je pense qu'il y a des raisons à cela. Tout le monde connaît finalement l'économie comptable de l'immigration. Privatisation des profits au bénéfice du patronat, collectivisation des coûts, formation, sécurité, pour l'ensemble des Français. Le plus important dans cette affaire, sur le plan politique, moi je crois que ce sont les mythes politiques qui sont le ressort du vote, qui font l'élection. C'est que le mythe de l'égalité, comme celui du progrès, qui avait profité à la social-démocratie, à la gauche pendant un siècle, le mythe de l'égalité est en train de passer au bénéfice, et c'est bien dommageable, du Front National. Car l'élément majeur dans cette affaire d'immigration, c'est pas simplement les problèmes d'insécurité, culturelle ou physique, c'est la délégitimation des politiques publiques et de l'État-providence. Et la remise en cause de l'État-providence par l'électorat populaire, c'est-à-dire celui qui en bénéficiait. Dans un système où la redistribution se fait non plus dans une logique de compensation et de solidarité, mais dans une logique de réparation, cet électorat populaire, quelles que soient les catégories qu'il englobe, disons 25 millions de Français, 60% du corps électoral, ressent comme une profonde injustice notre politique de redistribution, d'autant plus, je le disais tout à l'heure, que l'argent public devient rare. Nous refusons d'identifier les intérêts contradictoires de la politique française et donc de faire les choix en matière de politique de redistribution. Et cela explique la gauche, avec la politique de la ville, ayant accompagné ce choix, c'est-à-dire substituer à la question sociale la question ethno-raciale. Car s'il y a une obsession identitaire, c'est celle de la gauche. Elle ne pense qu'à ça, et c'est son unique critère, son unique discriminant pour prendre les décisions. Eh bien, le mythe de l'égalité, qui était le ressort formidable de la social-démocratie, est en train de lui échapper et de faire le lit du vote frontiste.
Vous savez, sur le fonctionnement de l'État-providence, j'ai, au grand dam de beaucoup de gens de gauche, défendu pendant des décennies la thèse de l'équité à la place de l'égalité. Parce que je pense que notre système de redistribution sociale est une machine aveugle qui redistribue à l'intérieur de ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait l'immense classe moyenne.
Je sens pointer le revenu universel.
Non, en aucun cas. Justement, l'inverse absolu. Je suis pour le revenu le moins universel possible et le plus ciblé possible. Donc, je pense qu'en revanche, en effet, notre système d'État-providence n'est pas ciblé sur ceux qui auraient besoin d'être pris à bras-le-corps. Je crois qu'en effet, on est dans une société où les inégalités sont croissantes. Je pense qu'Alain Finkielkraut, qui a été si longtemps prof à l'IX, a mesuré le fait que la pyramide sociale à l'IX est de plus en plus inversée. Mais je vais là, par exemple, dire quelque chose qui va vous faire bondir tous les deux, et c'est pour ça que je m'en réjouis par avance.
Vous aussi.
Je pense qu'au concours d'entrée à l'IX, où on donne des points pour les types qui pratiquent six langues, sont toujours des bourgeois, ou qui courent très vite parce qu'ils ont pu s'entraîner, j'aimerais beaucoup qu'on donne des points supplémentaires aux gosses qui ont fait l'entièreté de leur scolarité dans les lycées de ZEP ou de LEP. C'est-à-dire que je pense qu'une élite, car je crois qu'un pays a besoin d'élite, a besoin d'être décemment représentative. Je ne dis pas statistiquement représentative, je dis décemment représentative. Mais là, je pense aussi que notre désaccord va être total, et mon désaccord avec chacun de vous, j'allais dire.
Oui, en tout cas, c'est pas à moi d'exprimer le mien,
si,
je passe tout de suite
nous connaissons, cher Alain.
À Patrick Buisson, et j'aurai une autre question à poser.
Vous offusquez du manque de représentativité des élites, mais vous supportez très bien celui de la classe politique, finalement. Hein, voilà. Donc, là, c'est la discrimination positive qui pointe son nez. C'est donc la substitution à la question sociale de la question ethno-raciale. Ce que vous dites, les points, là, c'est une sorte de passe-droit anti-républicain. C'est-à-dire, on donne, c'est toujours la même chose. Il y a eu un choix fondamental qui n'a pas été fait par Nicolas Sarkozy pour des raisons que je comprends aujourd'hui et là, je redoutais. Cette politique de la ville, elle a consisté effectivement à essayer, c'est la vieille politique néocoloniale de la France, c'est-à-dire on essaye de sous-traiter la paix sociale avec...
Qu'est-ce que vous auriez fait
avec les, eh ben moi, je,
qu'est-ce que vous, avez, vous eh ben, seriez... Faisons d'un coup de baguette magique, vous êtes président de la République.
Ce que je lui ai proposé, cher Alain Max, je lui ai proposé...
J'imagine que j'ai dit le contraire, mais je vais vérifier.
Et qu'il a balayé d'un revers de main, et qu'a esquissé le ministre de la Ville, figurez-vous, de Jean-Marc Ayrault, François Lamy. C'est-à-dire abandonner le critère des quartiers, le critère géographique, pour prendre le critère de la concentration de la pauvreté, ce que d'autres appellent les indices de fragilité. C'est-à-dire le critère du revenu.
Je suis très inquiet parce que je suis d'accord.
Pour la redistribution.
Je suis très inquiet.
Ce qui permet d'inclure, effectivement, ce qui permet d'inclure cette France périphérique. C'est donc pas la préférence nationale, c'est la rupture avec la préférence immigrée.
Mais Patrick Buisson, mon critère de diversité, visait qui ? Les gosses des lycées de ZEP et de LEP.
Eh bien, ce qui est aussi un critère de pauvreté. Dommage que Nicolas Sarkozy ne vous ait pas davantage entendu.
Ben voilà, la prochaine fois, s'il est réélu, vous aurez peut-être le voir tous les deux mai, alors précisément.
On n'est peut-être plus tout à fait, pour des raisons différentes,
oui.
En odeur de sainteté.
En odeur de sainteté auprès de lui.
Est-ce que je peux faire déraper le débat sur un point qui m'a interpellé en lisant le livre de Patrick Buisson ? Parce que là, on a laissé de côté toute une partie de ce livre très intéressant, que Patrick Buisson a habilement fait glisser un peu, qui est le peuple ethnos. Quand je lis le livre de Patrick Buisson, je ne sais pas si je suis français. Alors, c'est vrai que je me présente l'an dernier comme un Français de temps de souche. Donc, je n'aime pas le peuple ethnos. J'aime le peuple culturel, oui.
Pour aller un peu dans le sens d'Alain Minc, celui-ci cite dans son livre « Un Français de temps de souche » la très célèbre phrase de Marc Bloch, donc je répète après lui, « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » On a le sentiment, à vous lire, que vous vibrez au Sacre de Reims, mais vous lisez sans émotion la fête de la Fédération, vous ancrez quand même la France dans son héritage chrétien. Vous dites, voilà, la France est un pays chrétien. Vous appelez à un renouveau, justement, de cette chrétienté en France, au détriment, peut-être, d'autres acceptions possibles de l'identité française.
La chrétienté dont je parle, ce n'est pas une chrétienté confessionnelle.
Oui, ça d'ailleurs, vous le dites.
Compris. Donc, la critique sous-jacente à votre propos, ce n'est pas la République, notre Royaume de France, mais le Royaume de France, notre République, c'est ça. Je pourrais dire, comme Talleyrand, à propos de la fête de la Fédération, par pitié, ne me faites pas rire à l'évêque qui le suivait, mais je ne le dirai pas, parce que moi, j'englobe l'ensemble de l'histoire nationale. Et la République, si elle respectait ses valeurs, c'est-à-dire les vraies valeurs de la République, c'est le service du bien commun. Qu'est-ce qui fonde la légitimité ? Le suffrage populaire, la souveraineté populaire, et, là, c'est un propos plutôt thomiste, le service rendu au bien commun. Voilà. Ces deux piliers-là sont aujourd'hui minés. Le premier est dénié, le deuxième est foulé aux pieds par nos gouvernants. La notion de bien commun leur est totalement étrangère. Je reviens donc à vos deux incises. Alain Minc ne se sent pas français dans la description que je fais de la francité. Eh bien, il a bien tort. Moi, je ne suis pas du tout dans cette procédure d'exclusion. J'ai pour tous ceux qui viennent d'ailleurs le plus grand respect à partir du moment, évidemment, où le processus d'assimilation qui était en vigueur jusque-là fonctionne. Quand ceux-ci rejettent la France ou la méprisent, je n'ai aucune raison, effectivement, de le respecter. Mais ma conception de la nation n'est pas une conception ethnique. C'est vrai qu'il y a eu une certaine homogénéité ethnique à travers l'histoire, et il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'une immigration européenne corrige marginalement les choses, très marginalement, car on est toujours en train de citer ce mythe de l'intégration réussie. C'est très difficile, l'assimilation, l'intégration. Ça nécessite de part et d'autre des efforts, surtout de la part de celui qui vient. On connaît l'étude de Milza sur l'immigration italienne, citée comme un exemple d'assimilation. Un tiers des Italiens sont repartis chez eux, un autre tiers a choisi un autre pays d'immigration, un tiers seulement a fait souche. Nous ne sommes plus dans ces conditions où l'assimilation peut fonctionner, et je le regrette.
Je reviens à la question que je voulais poser, mais elle s'inscrit dans le droit fil de notre dernier échange. L'élection de 2017 se prépare, nous en sommes aux primaires. Nicolas Sarkozy a déclaré il y a quelques jours, la grande question est de savoir si la France va rester la France. Alain Juppé, à l'inverse, nous propose l'image d'une identité heureuse, une France qui sera unie dans la diversité. Ma question est simple. Selon vous, lequel des deux a raison ? Lequel des deux voit juste ?
Écoutez, mon choix public, parce que je ne sais pas quel est le choix de Patrick Buisson pour l'élection de 2017, peut-être va-t-il nous le dire, mon choix public qui est de soutenir Alain Juppé fait que je me sens en phase avec cette description. Je ne sais pas ce que voulait dire le mot de Nicolas Sarkozy. La France reste la France. Telle qu'en elle-même l'éternité la change.
Pas telle qu'en elle-même l'éternité la change, mais vous avez peut-être lu la page qui a été consacrée à Marwan Mohamad, le porte-voix combatif du Comité contre l'islamophobie en France dans Le Monde, une page très élogieuse dans laquelle il disait « Le foulard est une tenue française. L'islam est une religion française. » Donc il y a une manière de dire que la France n'est plus ce pays que l'on rejoint, c'est un pays que l'islam transforme et un pays dans lequel les nouveaux arrivants n'ont aucun effort à faire pour s'y intégrer ou s'y assimiler.
Mais faire
ce qui ne peut
faire un
augmenter raccourci, l'identité l'insécurité
faire culturelle. Un raccourci entre guillemets l'identité heureuse défendue par Juppé et ce type dont je connais à peine le nom me paraît quand même ou un incident.
Est-ce qu'il est dans la France d'Alain Minc, ce type dont vous parlez là ?
Il est français, je crois celui-là. Il est français, oui. Mais moi, vous savez très bien quelle est ma conception sur l'islam. Je suis pour la suspension pendant 5 ans de la loi de 1905 pour créer une espèce de relation concordataire avec cette religion. J'aimerais déjà, c'est plus facile, qu'on le fasse en Alsace-Moselle. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi en Alsace-Moselle, la République française paye les curés, les rabbins et les pasteurs qu'elle n'a pas un grand besoin idéologique de contrôler et ne paye pas les imams qu'elle aurait tout intérêt à contrôler.
Double naïveté, il n'y a pas de clergé dans l'islam et ce n'est pas parce que vous les payez que vous les contrôlerez.
Non, mais attendez, tout vaut dans la vie, tout vaut le coup d'essayer. Je pense que il y a quand même un problème objectif qui est que au moment de la loi de 1905, l'islam n'existait pas puisque le premier édifice religieux, c'est la loi, puisqu'il a fallu une loi pour permettre l'édification de la grande mosquée de Paris. Je pense que la République doit tout faire pour essayer de prendre la main sur une religion pour empêcher son dérapage. Cette religion-là, c'est donc que je considère qu'aujourd'hui, elle n'a pas évidemment, elle est à milieu du processus d'intégration des trois autres cultes. D'ailleurs, les trois autres églises ne sont presque plus des religions, ce sont des ONG. Aujourd'hui, c'est quoi l'Église catholique ? C'est une ONG, grosso modo. La plus grande des ONG. Ça, c'est pour provoquer un peu
on a dérivé du problème des primaires sur lequel il y a beaucoup à dire, puisque c'est un exercice fabuleux de post-démocratie. On invente de nouvelles formes procédurales de légitimation qui renforcent le suffrage censitaire. Mais puisque nous sommes sur le terrain de l'islam, le propos d'Alamac me paraît absolument stupéfiant. Bravo, Alamac. Vous êtes l'héritier du maréchal Bugeaud, des bureaux arabes. Le bon islam modéré, c'est l'islam qu'on achète, c'est l'islam corrompu, c'est l'islam qu'on va noyer sous l'argent. C'est ça, la politique néocoloniale de la droite. Elle ne sait pas traiter...
Et vous faites quoi, vous, avec l'islam ?
Eh bien, écoutez, moi, avec l'islam, je ne fais ni ce que fait la droite, ni ce que fait la gauche. Car le retour du fait religieux et le fait que nous ayons à travers, par exemple, l'islamisme, qui est une forme d'expression de l'islam, je n'irai pas plus loin, le questionnement de ce que nous sommes, la remise en cause de ce que nous sommes, c'est-à-dire poser les questions fondamentales, celles des valeurs, celles ce qui fait le lien social, ce qui fait société. Nous n'avons rien à opposer à l'islam aujourd'hui, si ce n'est effectivement ce qu'on fait toutes les politiques de droite. C'est une politique néocoloniale. On va créer des notables qu'on va soudoyer. C'était la politique des agas, des bachagas en Algérie. On crée une représentation.
Mais vous seriez le pouvoir, un instant, vous-même. Qu'est-ce que vous feriez ?
Eh bien, moi, je ne serais certainement pas sur les lignes actuelles, ni celle du laïcisme intransigeant, ni celle de... Je considérerais l'islamisme comme une chance, oui, de remettre en cause les fondements de la société française. Quelle valeur ? Quelle sociabilité reconstruisons-nous face à l'islam ? Cette question-là, elle n'est jamais posée. Elle est centrale aujourd'hui.
Mais alors, face à l'islam, avec une exigence pour l'islam de s'intégrer... de s'assimiler. Que voulez-vous dire, Patrick Buisson, par le mot « face à l'islam » ?
Mais voilà, j'allais réagir sur ce thème. Vous le prenez comme un levier pour fabriquer ou faire évoluer le reste de la société. Mais qu'est-ce que
vous allez...
Vous êtes le pouvoir.
Je veux bien être réactionnaire de service, mais je constate qu'il y avait une société ou des sociétés reposant sur des valeurs avec certaines proximités, il faut bien le reconnaître, qui assimilaient l'islam. Alors vous me direz, c'était un peu différent. La France des années 60, il y avait 1 million de musulmans. C'est pas la même masse critique. Il y en a aujourd'hui 4, 5, 6, on ne sait pas très exactement. Mais il y avait aussi une grande proximité anthropologique, spirituelle, philosophique entre ce qui restait de la France chrétienne à l'époque, il faut bien le lire, et l'islam. C'est-à-dire les mêmes valeurs sur, par exemple, effectivement, le regard porté sur le rôle de la famille comme communauté naturelle de protection. Il y avait ces passerelles. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Notre société libérale, libertaire, et pour beaucoup dans la radicalisation des musulmans. Vous le savez, c'est incontestable. Ils jettent sur nous ce regard de mépris qui fait qu'ils ont à la fois le sentiment de la supériorité de leur civilisation
et de l'infériorité de leur puissance.
Exactement.
Mais je veux dire, la réponse de Patrick Buisson est très habile, très intelligente, ce qui ne m'étonne pas, mais totalement non satisfaisante. Car qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous devons faire levier sur le défi que l'islam nous envoie pour recréer nos propres valeurs et à partir de ces valeurs, établir une espèce de rapport de force ou avec l'islam. Ça ne correspond pas. Si vous gouverniez, vous gouvernez avec des problèmes qui sont des communautés. Elles existent. Il n'y a pas plus anticommunautaire que moi. Je regrette que l'assimilation dont Alain Finkielkraut et moi avons été les enfants ne puissent pas fonctionner de la même manière, mais au moins je suis intégrationniste. Mais n'empêche que ces communautés existent. Qu'est-ce que vous faites ? Le temps de reconstruire vos valeurs, mais il s'en sera passé des choses d'ici là, et des incidents, et des tensions.
Qu'est-ce qu'on fait ? Sur quel plan ? Parce que si c'est pour répondre comme la droite, en termes de sécurité, de moyens, d'effectifs, on passe à côté du problème. Il faut bien sûr tout cela.
Non, mais je vous mets dans votre logique, à vous, qui est une logique de communauté française. Qu'est-ce que vous feriez ? Je pense que vous me dites, vous voulez pratiquer à l'égard de l'islam, la phrase est habile, celle d'un ancêtre que je vous crée, le maréchal Bugeaud.
Oui.
Bon, je pense que c'est peut-être un peu excessif, mais à la limite, vous m'auriez dit Lyautey, ça m'aurait beaucoup moins choqué.
Donc, oui, j'aurais pu vous dire aussi, Maurras, vous avez une conception des religions comme d'un outil de contrôle social. C'est le mot de l'évêque Maury, l'évêque de Paris, dans l'antichambre de Napoléon, lorsqu'il croise le préfet Pasquier. Au fond, monsieur le préfet, on fait le même métier. Vous voulez faire de la religion un outil de contrôle social. C'est pas ça, la religion. Il y a une capacité insurrectionnelle dans la religion dont il faut tenir compte. Et par exemple, c'est vrai, l'Église a, en matière de dialogue avec l'islam, une expérience que n'a pas l'État. Est-ce qu'on consulte, par exemple, l'Église ? Est-ce que c'est un des partenaires aujourd'hui
mais
du
attendez,
débat politique ?
Dieu sait si je trouve que l'Église, surtout celle de l'actuel pape, joue un rôle extrêmement utile dans nos sociétés. Je pense
un rôle
que
d'ONG, de plus en plus.
D'ONG, mais
si
elle le fait
raison.
Très bien. Et elle a un leader charismatique.
Le pontificat de Benoît XVI.
Elle a un leader charismatique à sa tête, de ce point de vue. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas plus communautaire à certains égards que le discours que tiendrait l'Église vis-à-vis des musulmans. Car chacun d'entre nous sait qu'il y a une espèce de syndicat oligarchique des religions qui d'ailleurs vont encore constituer voire l'État pour asseoir leurs propres revendications. Donc le recours à l'Église, c'est la reconnaissance des communautés.
Mais je suis moi-même étonné de cette référence à l'Église parce qu'au lendemain de l'assassinat du père Hamel, l'archevêque de Rouen, par exemple, et d'autres avec lui, ont pris une posture de contrition, de repentance, en disant qu'au fond, c'est le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres qui explique ce genre
c'est-à-dire
de comportement.
C'est-à-dire la grille de lecture sociale qui ne fonctionne absolument pas.
C'est plutôt un dialogue social qu'un dialogue religieux qui, aujourd'hui, prévaut.
Écoutez, si c'est pour me faire dire que la hiérarchie épiscopale, à travers les siècles, à travers le temps, s'est toujours trompée, il est toujours régimiste, il est toujours du côté de la pensée dominante, que les mandements épiscopaux ont toujours été, ou sont ont toujours flatté le pouvoir en place. Évêques disent des sottises et une mauvaise analyse, tout à fait d'accord. Quand je dis l'Église, je veux parler, je veux dire, d'une certaine forme de société, de civilisation, qui n'est pas simplement propre à l'Église. Les valeurs chrétiennes, elles sont aussi même devenues folles des valeurs républicaines, après tout, je veux dire.
Oui, mais alors justement, quand même, dans votre livre, Patrick Buisson, il court une inquiétude. Vous défendez une certaine idée de la France, une idée incarnée, la France comme patrie charnelle, mais vous êtes inquiet pour son avenir. Cette insécurité culturelle, vous la reprenez à votre compte. Or, avec votre livre, vous tirez à boulet rouge sur l'ancien président de la République, et donc vous contribuez au succès du candidat qui ne reprend absolument pas cette inquiétude à son compte, alors que celui que vous avez soutenu essaye, malgré tout, en dépit des défauts que vous lui trouvez, eh bien, il essaye de l'incarner, n'est-ce pas ? Un peu paradoxal que vous fassiez le lit du candidat qui défend des positions qui se trouvent aux antipodes des vôtres, et c'est pas seulement une question de position, c'est une inquiétude, un sentiment du tragique qu'on ne retrouve absolument pas chez celui qui est en passe de gagner les primaires et peut-être remporter la prochaine élection présidentielle.
Je pense que le discours de Nicolas Sarkozy, malheureusement, je suis payé pour le savoir, n'a strictement aucune importance. Ce qu'il dit aujourd'hui sera balayé par les vents de l'histoire et de son élection, mais qui ne se produira pas, Dieu merci. Excusez-moi de ne pas voir à échéance de 2017 les solutions au problème de la France. Je pense que nous sommes dans une fin de cycle. Il y a un mouvement de fond que j'ai appelé le mouvement dextriste qui fait que les thématiques portées par la social-démocratie et la gauche aujourd'hui ne sont plus les thématiques de l'heure. Gouvernance, souveraineté, identité, diversité, protectionnisme, libre-échange, en tout cas, n'a plus les réponses. et que l'élection d'Alain Juppé sera finalement un épiphénomène contracyclique, comme l'a été l'élection de François Hollande. Je veux dire que dans un premier temps, ça n'a strictement aucune importance. Beaucoup plus important me paraît justement le système mis en place par les primaires de détournement de la démocratie, cette nouvelle forme de légitimation procédurale inventée par les partis pour se survivre et contrôler la sélection des candidats. De Gaulle a créé l'élection président de la République au suffrage universel pour court-circuiter la partitocratie. La partitocratie est revenue en force. Tant que ce système fonctionnera, nous n'aurons que des Nicolas Sarkozy, des François Hollande, c'est-à-dire un personnel politique qui participe de l'endogamie partisane. Qu'est-ce que vous voulez ? Les partis mettent des critères de plus en plus drastiques, non seulement pour se présenter, on a vu que les conditions ont été sensiblement modifiées depuis 1962 à la présidence de la République, mais pour être candidat à l'intérieur du parti, il faut représenter l'esprit du parti. On voit bien que ces partis n'ont plus aucune assise populaire, aucune légitimité. Ils ont inventé un système pour construire l'offre politique de la présidentielle. Et si le système était allé jusqu'au bout, nous aurions eu un choix Hollande-Sarkozy, c'est-à-dire celui dont 80% des Français ne veulent absolument pas. Regardez la perversité de ce détournement de démocratie.
Alain Marc.
Moi, je me fais très bien aux primaires. Preuve en est que non seulement j'irai voter pour Alain Juppé à la primaire de la droite, mais que j'irai voter à la primaire de la gauche pour le socialiste le plus modéré que le spectacle
ça,
m'offrira.
C'est quand même extrêmement paradoxal.
Non, c'est pas
les
paradoxal.
Les primaires ont été instituées aux États-Unis, mais
ça m'est complètement égal.
Je pense que les
primaires, mais parce que le système des primaires aux États-Unis le rend très difficile, sauf dans certains États. Pourquoi je pense cela? Je pense que, en effet, par rapport à ce système de syndicats d'élus que sont les partis, car il n'y a pas de parti populaire en France, c'est une relative fenêtre. Pour employer les mots que déteste Patrick Buisson, je dirais que c'est une forme de suffrage en effet censitaire, puisque 3 millions de gens représentent 45 millions. Donc on me donne 2 bulletins à 15 voix. Je devrais être un imbécile pour ne pas les utiliser. Pourquoi irais-je voter alors que je souhaite l'élection d'Alain Juppé pour le candidat socialiste le moins radical? Parce que je pense que l'équilibre du pays suppose que les socialistes continuent quand même cas à cas leur mutation et que, à certains égards, François Hollande y a contribué. Moi, je crois qu'on devrait avoir une grande reconnaissance à François Hollande. Il nous a débarrassé du socialisme, peut-être pas de manière aussi délibérée que François Mitterrand nous a débarrassé du communisme, mais il l'a fait. Une fois qu'on a dit ça, je comprendrais très bien le raisonnement, la référence gaulliste, si on n'était pas dans un cas de figure où on a la certitude d'avoir au deuxième tour de la présidentielle la représentante du Front National. Il y a dans la droite française deux tendances. Elles se sont toujours exprimées. Et il est clair qu'entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, ces deux tendances apparaissent de façon limpide. Si on ne passait pas par les primaires, ils iraient à l'élection présidentielle et ils feraient chacun. L'un ferait 16% et l'autre ferait 12%, que sais-je encore. C'est l'irruption du Front National qui rend la mécanique des primaires absolument inévitable.
Vous dites François Hollande nous a débarrassé du socialisme. Peut-être va-t-il plutôt débarrasser la France du Parti Socialiste. Peut-être est-ce le Parti Socialiste dont la survie est en jeu, parce que vous avez une gauche de gauche, autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est de plus en plus forte et très bien ancrée aujourd'hui.
Écoutez,
en France,
et qui risque
en effet, d'occuper la place qui était celle autrefois du Parti Socialiste.
Écoutez, nous appartenons tous à la même génération. Donc nous nous souvenons du candidat socialiste pourtant portant sur ses épaules Pierre Mendès France, ce mythe terminant à 5% en 69, et du fait que la gauche française n'a pas disparu et les socialistes non plus. Je ne crois pas à la disparition de cette gauche-là. Je pense qu'elle va passer un moment difficile, mais ce sera pas la première fois de son histoire. Rappelez-vous 93. 93, elle est balayée aux élections législatives.
Et Jospin fait un très bon score.
Et Jospin fait un score remarquable en 95 et gagne législative en 97. Donc je ne crois pas à la disparition de cette gauche-là si elle sait se métamorphoser. C'est d'ailleurs, à mon avis, cette fenêtre-là qu'a raté Emmanuel Macron.
Ben, je ne suis pas sûr qu'il l'ait raté. Ce qui est intéressant dans le phénomène Macron, on en a connu un certain nombre d'autres avant, c'est qu'il traduit effectivement l'irritation, l'exaspération d'une partie de l'électorat à l'égard de ce régime de la carte forcée, qui est celui des primaires, puisqu'on fait on remet à une minorité partisane le choix de construire l'offre politique, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'a voulu De Gaulle, le dialogue direct entre le candidat.
Est-ce que je peux vous poser une question, ouais. Et je le pose à l'expert électoral que vous êtes. Vous ne croyez pas que si dans le contexte actuel, Emmanuel Macron se présente comme un homme de gauche et va à la primaire de la gauche, il obtient tellement de voix centristes qui vont voter à la primaire de la gauche qu'il gagne?
Ben, jusqu'à présent, on n'a pas Patrick une grande Buisson. Expérience des primaires ensemble, et ce fantasme de voir justement les supplétifs de l'autre camp arbitrer me paraît bien excessif. Ou quand même s'il y a une déclaration, à la main que ça ne vous pose aucun problème de signer les deux déclarations du Parti Socialiste et
Républicain. Vous signez bien les conditions d'utilisation de l'Apple Store, hein, sans les lire.
C'est vrai, mais si vous considérez que les valeurs républicaines auxquelles il fait référence sont du même ordre que celles-là.
Non, mais les valeurs républicaines de la droite et du centre et les valeurs républicaines de la gauche, elles se confondent, c'est les valeurs républicaines.
Donc vous signerez sans problème.
Hein. Voilà, sans problème.
En tout cas, revenons au phénomène Buisson. Macron. Il est effectivement l'expression d'un refus de ce système de la carte forcée que les partis essayent malgré tout de reconstruire pour ne pas laisser échapper le processus de sélection des candidats. C'est bien tout le problème. Si on reste avec cette classe politique dont vous connaissez
à la main, les insuffisances. Mais comment vous feriez sans les primaires, aujourd'hui avec Mme Le Pen structurellement à 28%?
Si vous estimez que l'élection du président de la République au suffrage universel est un danger pour la démocratie, il faut le dire à la main. Je considère que Mme Le Pen n'a strictement aucune chance d'accéder au pouvoir. C'est l'espèce de fascisme fantasmé dans lequel baigne la gauche parce qu'elle a besoin de cet ennemi.
Mais comment sélectionner les autres candidats, justement?
L'hypothèse que vous soumettez aujourd'hui, c'est-à-dire pas de primaire, Juppé, Sarkozy candidat. Vous voulez le résultat? C'est pas 18-12, c'est 25-5. C'est que l'électorat de la droite ira vers celui qui a le plus de chances de gagner et vers lequel la dynamique électorale se sera dégagée. C'était le cas dans les élections précédentes, même avec un Front National à 15%, si vous voulez. Moi, je pense que cet électorat choisira sans problème le candidat au premier tour. Le premier tour, il sert à ça. Il sert à éliminer les autres.
Pourtant, quand Nicolas Sarkozy reste majoritaire à droite parmi les adhérents et les sympathisants du parti Les Républicains, et si Alain Juppé l'emporte, c'est grâce aux voix du centre et peut-être aussi de celles des élus du hollandisme. Donc l'écart dont vous parlez n'est peut-être pas
simplement. Je ne suis pas l'expert que décrit Alain Minc, mais je sais une chose, c'est le peu de fiabilité de ces sondages. Les sympathisants républicains, dans un échantillon de 1000 personnes interrogées, c'est 180 personnes. La marge d'erreur est considérable. La pondération que doivent faire les instituts laisse place à bien des interprétations politiques qui n'ont aucune rigueur scientifique. Donc je ne m'y fierai pas. Alors c'est plutôt encourageant d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy, quand les sondages sont mauvais, le politique dit méfiez-vous des sondages, vous prenez-les avec des pincettes. Mais là, c'est vrai que Encore que, les dernières expériences, notamment les primaires socialistes, ont montré que les instituts ne s'étaient pas trompés beaucoup. Mais tout simplement, je crois que Nicolas Sarkozy fait une erreur. Il fait une campagne populiste pour une élection qui va concerner les inclus. C'est-à-dire à la main que va aller voter, les classes urbaines dominantes vont aller voter.
Nous terminons sur un accord complet, ce qui est très étrange. Je pense qu'il s'est trompé d'élection, qu'il n'a pas compris ce qu'est une primaire.
Bon, écoutez, très bien, nous terminerons donc en effet sur cet accord et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Alain Minc, merci Patrick Buisson. Patrick Buisson, je rappelle le titre de votre livre, La cause du peuple, l'histoire interdite de la présidence Sarkozy. Il est publié aux éditions Perrin. Alain Minc, vous avez publié récemment Un Français de temps de souche chez Grasset. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre De quoi souffre la France? Nous creuserons donc le même sillon. Mes invités seront Alain Duhamel et Denis Tillinac. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.